T'en as rien à foutre de la planète ou...
Chaque génération va critiquer la génération qui arrive.
Je ne crois pas au modèle Amish.
T'angoisses pas trop ?
Bah si, si, j'angoisse.
On écoute, on accueille, inconditionnellement.
Accepter que la nature des relations qu'ils entretiennent avec les autres change aussi.
Nous sommes en train de nous séparer et de nous diviser.
L'intime est politique.
Je veux vraiment l'effort sincère de comprendre votre monde.
Lien précieux, le podcast qui remet l'intime au cœur de l'urgence environnementale. Je suis Amandine Lafont, et l'écologie, les autres et moi, c'est pas toujours ça. Vous non plus ? Alors retrouvez-moi deux fois par mois avec mes invités qui partageront une expérience forte autour de l'impact de leur engagement sur leurs relations aux autres. Épisode 2. Anatomie d'une rupture. Quand on est engagé et que l'on porte haut et fort ses valeurs auprès de ses amis, sa famille, au boulot, ça devient vite épuisant.
Ça va ma chérie ?
Oh, attends.
Oh, maman, elle rentre tard là.
Oh, ça veut pas.
Et personnellement, je suis contente quand je rentre chez moi le soir de pouvoir déposer les armes et me ressourcer auprès de mes filles et de leur papa.
Les petits pois là ?
Butternut, et tu vois, et là, c'est. Alors, tu vois, c'est lézard, c'est ici.
J'ai vraiment pu mesurer la chance que j'avais lorsque j'ai accompagné des familles vers une parentalité éco-responsable pour le compte de l'organisme de formation en écologie, santé et éthique EDENI. Souvent, pour les personnes que je suivais, la lutte semblait continuer au sein même du foyer, et notamment avec l'autre parent. Il y a quelque temps, une des mamans qui a suivi ma formation m'a annoncé sa séparation, notamment en raison de son engagement écologique, jugé trop radical par son conjoint. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça bascule ? Que l'engagement prend le pas sur l'amour entre deux personnes ? Quand les tensions au sein du couple sont dues au rapport à l'écologie, comment la séparation peut-elle se passer ? Comment rebondir ensuite ? Est-il possible de maintenir le lien, et ce, de façon apaisée, notamment s'il y a des enfants dans l'histoire ? D'ailleurs, quel peut être l'impact d'une rupture pour de telles raisons sur eux ? Et comment peut-on leur transmettre ces valeurs ? Alors qu'on n'en a la garde qu'une semaine sur deux, et que l'autre parent les éduque selon un modèle pas vraiment aligné au sien. Peut-il y avoir un risque qu'ils finissent lobbyistes pour le compte du capitalisme mortifère ? J'étais bien démunie pour répondre à toutes ces questions. Mais une personne allait pouvoir nous éclairer, par son expérience personnelle d'un tel événement. C'est Jean-Christophe Anna, strasbourgeois, papa de deux garçons de 13 et bientôt 18 ans, séparés de leur maman depuis 2021. Initiateur du projet et de l'association qui le porte, l'Archipel du Vivant, il se définit comme un rebelle amoureux du vivant. Son souhait ? Faire émerger une nouvelle société respectueuse du vivant, libérée de tout rapport de domination et réellement démocratique. Après un burn-out en 2015, il commence à se poser beaucoup de questions. Dans un premier temps sur l'éducation des enfants, en s'intéressant au concept d'école démocratique, puisqu'une venait d'ouvrir à Strasbourg. Ce sont des écoles dans lesquelles les apprentissages ne sont pas dictés par le ministère de l'Éducation nationale ou par les adultes, mais sont librement choisis par les enfants. Un autre paradigme. Les premières tensions avec son épouse se font sentir. Ensuite, sa réflexion le mène au sujet lié à l'intelligence artificielle. Et là, il prend peur. Peur de jusqu'où la folie humaine peut nous conduire, avec une intelligence susceptible de nous dépasser un jour. L'anxiété monte et les tensions au sein du couple aussi. Mais c'est vraiment à partir de 2017 que Jean-Christophe s'interroge sur le monde tel qu'il était à l'époque et sur le monde tel qu'il allait advenir, et qu'il se penche sur les questions d'effondrement. Il change alors radicalement de mode de vie. Il bannit le plastique, il arrête l'avion, et en 2 ans, il devient vegan et antispéciste, locavore et minimaliste.
Ça a été pour mon épouse compliqué, parce que du jour au lendemain, alors que j'étais, tout en étant rebelle comme je le suis, j'étais quand même dans le système, je consommais, je l'ai mise peut-être en face de son rôle de maman, quelque part, que je remettais en question, ne serait-ce que dans les achats de nourriture, hein, d'acheter bio local de saison en vrac, alors qu'elle avait le sentiment de bien faire et qu'elle faisait bien, et que moi-même, je m'alimentais non bio et pas forcément local et de saison. Et du jour au lendemain, je l'amène à se poser ces questions, je deviens végétarien, puis vegan. Et donc il y a énormément de choses que l'on partageait, que l'on partage moins, et où je la mets face à des choix de vie très radicaux de mon côté, très rapides, alors qu'elle n'y était pas du tout prête, qu'elle m'avait soutenu pendant ce burn-out, qu'elle a toujours été là pour moi et moi pour elle également. J'étais qualifié par elle, par d'autres, de perché à l'époque pour avoir radicalement comme ça choisi de devenir aussi minimaliste, de me découvrir anarchiste. Enfin, il y a énormément de changements ou de révélations finalement de mon côté, mais qui ont questionné tout ce que nous avions construit ensemble, puisque nous étions propriétaires d'un appartement, nous avions deux enfants. Moi, j'avais créé ma boîte, mais cette boîte fonctionnait, donc j'ai arrêté cette société en 2019. J'ai liquidé cette entreprise parce que j'estimais que les clients que je servais à l'époque étaient à l'origine des problèmes que je dénonçais. Et donc nécessairement, il y avait un non-alignement. Et comme je suis quelqu'un de radical dans le bon sens du terme, qui s'intéresse à la racine des choses, moi j'ai toujours fait attention au complexe du cordonnier mal chaussé. Voilà, moi j'aime bien faire les choses. Quand je porte quelque chose, quand je suis convaincu de quelque chose, je me l'applique à moi-même et je commence par ça. Et donc là, nécessairement, tous ces changements ont eu vraiment énormément d'impact sur notre couple. Ça en est venu aussi pendant 4 ans, avoir énormément de disputes tous les deux devant nos enfants, ce qui n'était pas forcément agréable, alors qu'on adore nos enfants tous les deux. Et on leur a fait vivre ça parce que le point Godwin n'était plus les nazis et la Seconde Guerre mondiale, c'était l'effondrement de notre civilisation, c'était l'extermination du vivant. Je n'arrivais plus à avoir une discussion légère, comme les appelle mon ex-épouse. Je n'arrivais plus à parler de choses simples sans systématiquement faire un lien, des ponts, avec ce que j'avais commencé à appréhender et avec la gravité de la situation.
Jean-Christophe mène de nombreuses recherches et est avide de partager les découvertes qui le bouleversent. Il le fait notamment à travers ses sites web 2017-2037, 20 ans pour tout changer, puis effondrement et renaissance. Il continue à creuser tous ces enjeux autour de ce qu'il qualifie aujourd'hui d'extermination et non extinction de masse du vivant. Extermination, car c'est l'une des espèces, l'espèce humaine en l'occurrence, qui en est à l'origine, via l'extractivisme, le productivisme, le consumérisme et le déchétisme. Sa réflexion finit par l'amener à la conclusion que sa famille et lui doivent quitter la ville pour partir vivre dans un éco-village.
C'est un choix qui était de mon côté bien mesuré et en même temps un choix que j'avais proposé à mon ex-épouse, alors qu'on était encore ensemble, bien sûr. C'était de lui dire, voilà, tu peux très bien poser un congé sabbatique, on peut prendre un an, tester la vie en collectif, dans une tiny house, dans un petit espace, et on verra. Et puis finalement, comme ça ne prenait pas, j'ai proposé 6 mois, j'ai proposé 3 mois, j'ai proposé 2 semaines, et finalement ça ne l'a pas fait. Et à un moment donné, effectivement, je suis quelqu'un de fonceur qui a souvent des projets ambitieux, très audacieux. Et là, c'était sans doute le projet un peu fou de trop. Alors, un peu fou, je reprends ces termes, hein, évidemment. Et là, je pense que c'était le coup de trop. À un moment donné, après le burn-out, l'école démocratique, parler d'intelligence artificielle, de lui dire l'effondrement, l'extermination du vivant, elle me disait, mais ça sera quoi après? Et je lui dis, mais il n'y aura pas d'après. En fait, maintenant que j'ai compris ça et que finalement... j'avais à peu près toutes les pièces du puzzle sans avoir compris que ça formait un puzzle, il n'y aura pas d'après. Je vais vraiment changer ma vie tout court par rapport à la conscience que je venais de prendre de la gravité de la situation écologique.
Pour tenter de convaincre sa femme, mais aussi le reste de sa famille, fin 2019, à l'aube de la décennie qui, d'après le rapport Meadows, verrait se produire la fin de la croissance et un potentiel effondrement systémique global, Jean-Christophe leur écrit une lettre.
Message d'amour à toutes les personnes que j'aime. La femme de ma vie, mes enfants chéris, mes frangines et mes frangins de sang et de cœur, ma formidable nièce et mes adorables neveux. Cette lettre est sans nul doute la plus capitale, la plus précieuse, la plus essentielle que je ne vous écrirai jamais. Elle mérite donc toute votre attention. Accueillez-la comme un cadeau, un don de mon cœur à vos cœurs, un lien entre nos âmes. Je vous partage ici le fruit de ma réflexion et le constat implacable de la situation actuelle, sans vous cacher la vérité qui n'est pas toujours facile à recevoir. C'est ma responsabilité d'époux amoureux, de papa adorant ses mômes, de grand frère protecteur, de beau frère bienveillant et de tonton clairvoyant. À partir de la somme conséquente d'informations que j'ai pu compiler depuis 3 ans, j'ai acquis l'intime conviction que nous allons vivre d'incroyables bouleversements, non pas dans les prochaines décennies, mais dans les 5 prochaines années.
Ça a été un premier acte fort qui a sans doute peut-être mis la puce à l'oreille à ma sœur qui habitait Berlin et qui depuis maintenant 2 ans vit dans les Bauges, qui a fait ce chemin de quitter la grande ville pour s'installer en ruralité. Alors elle est moins radicale que moi et sans doute moins engagée sur le plan écologique, mais ça a quand même créé un petit déclic. Chez les autres, moins. En tout cas, ils ont bien accueilli la lettre. Mais c'est une lettre qui est dure aussi, où je dis les choses, où j'explique concrètement que le monde dans lequel vont évoluer nos enfants n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui.
Pour la toute première fois de ma vie, j'ai vraiment peur. Non pas de l'avenir, qui ne sera certes pas rose. Non pas de la fin de notre civilisation qui signifie celle de notre entreprise collective de destruction massive du vivant. Non. Si j'ai peur, c'est pour vous, mes amours. J'ai peur que vous ne soyez pas prêts quand le moment sera venu. Et ce moment est bien plus proche que vous ne le pensez. Vous vous dites sans doute que je suis rapide, que je vais trop vite. Vous vous trompez. Je suis en retard. Je regrette de n'avoir pas percuté plus tôt. J'aimerais tant vous convaincre de me suivre, de me faire confiance, d'embrasser une vie différente, sans doute plus heureuse et joyeuse, car plus ancrée en connexion profonde avec notre mère nature. Peut-être que cette lettre sera le déclic.
Une année passe. Le temps pour Jean-Christophe d'écrire le volet écologie et résilience du programme d'une liste citoyenne au municipal de Strasbourg, cofonder l'archipel du vivant, et publier son premier livre, Le climat n'est pas le bon combat. Mais aussi de faire construire sa tiny house et d'écumer divers écolieux à la recherche du bon projet à rejoindre. Et ce, en pleine crise du coronavirus. Pour Jean-Christophe, c'est la confirmation que nous sommes entrés dans la phase finale de l'effondrement. Mais ce n'est pas un effondrement total. Le système a continué à fonctionner depuis le domicile des gens, en mode Wi-Fi, Netflix et compagnie. Et il est reparti de plus belle depuis. Alors la prise de conscience espérée de ses proches n'a pas eu lieu. Et l'incompréhension perdure.
Ce qui a été le plus difficile pour moi, dans ce que pouvait dire mon épouse et d'autres personnes, c'est de considérer que je puisse abandonner ma famille alors que je le faisais pour eux. Et j'ai entendu le fait d'abandonner, surtout qu'elle elle a une blessure de l'abandon, alors que moi j'y allais vraiment pour préparer le terrain, encore une fois, pour préparer l'avenir, pour avoir un espèce de plan B, une base de repli. Et puis d'autres personnes, parmi des connaissances, des amis, qui considéraient également que j'étais fou, que j'étais perché, que j'abandonnais mes enfants, que j'abandonnais ma femme, que je quittais tout, que c'était égoïste de ma part. Ma sœur aussi a pu le dire à un moment donné. Alors que pour moi, c'était tout le contraire. Je suis quelqu'un de profondément altruiste. Enfin, j'estime que l'altruisme existe et que ma démarche était réellement de m'engager sur quelque chose qui pouvait nous permettre d'être plus résilients demain, ensemble. Et effectivement, ça a été compliqué d'entendre ce genre de choses, alors que moi, je souffre justement d'une autre blessure qui est l'injustice. Et ça, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, avec mon épouse, il y a eu 2 blessures qui se sont confrontées. La blessure de l'abandon de son côté, de voir son mari s'en aller. Elle a été quelque part abandonnée par son père, plus jeune, dans sa vie. Et donc elle revivait un peu ça, alors qu'on a vraiment eu une très très belle histoire d'amour ensemble, même si les 4 dernières années étaient compliquées et je tenais un discours volontairement, mais qui était anxiogène, clairement anxiogène pour elle et pour mes enfants. Et donc oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué à vivre pour elle. Et moi, de l'autre côté, je ne comprenais pas avec ma blessure de l'injustice qu'elle ne me suive pas. Elle m'avait suivi à Strasbourg, elle m'avait accompagné, soutenu dans mes choix un petit peu audacieux de lancer une boîte, dans mes choix de vie tout court, de nous installer à Strasbourg. Ça restait quand même compatible avec le récit dominant, ça restait quelque chose d'assez classique. Quelle chance quand on partage cette bascule, quand on partage cette prise de conscience à deux, parce que quand ça arrive à l'un des deux, l'une des deux, et que l'autre n'est pas réceptif, que l'autre est inscrit dans un schéma qui reste le même, ça, généralement, la friction est telle que le couple arrive à une rupture.
Abandon, injustice, mais aussi rejet, humiliation, trahison. Ces 5 blessures de l'âme qui se constituent au moment de l'enfance conditionnent, d'après la thérapeute canadienne Lise Bourbeau, nos vies d'adultes. J'ai lu son livre il y a quelques années dans le cadre de ma reconversion. Et ce qui est assez bluffant dans son analyse, c'est que pour chacune de ses blessures, elle décrit avec précision non seulement des attitudes et des comportements observables, mais également des caractéristiques physiques correspondant à la personne blessée. Car le corps imprime ce qui n'a pas pu s'exprimer, se régler. Et à chaque blessure, son masque, dont le rôle est justement de la cacher aux autres et à soi-même, un peu comme un pansement. D'après Lise Bourbeau, nous souffrons toutes et tous de plusieurs blessures, rarement des cinq. Mais une est souvent plus marquée que les autres. Prendre conscience de sa blessure principale aide à entamer un processus de guérison et de libération, dans l'espoir de devenir pleinement soi-même. Mais aussi à entamer un dialogue avec les autres, pour développer une compréhension mutuelle.
Et puis, il y a eu un deuxième temps fort qui, après avoir essayé encore une fois de convaincre mon épouse de me suivre dans la tiny, dans un éco-village, et de tester tout ça, j'en suis arrivé à constituer le dernier Noël que nous allions passer ensemble avant mon départ dans le Périgord, donc fin de 2020. J'ai créé un espèce de sac à dos dans lequel j'ai rempli ce sac de tout ce qui, pour moi, permettait la résilience. Alors, je n'ai pas envie de parler de sac de survie parce que je ne suis pas du tout survivaliste, mais il y avait dans ce sac voilà, une trousse de secours, des talkie-walkie, une couverture de survie, une carte de France, une lampe de poche, enfin bon, énormément de choses, des jumelles qui peuvent servir dans une situation peut-être un peu plus dégradée. En tout cas, et je me suis fait le même sac pour moi. Donc voilà, il y a un sac qui était destiné à ma femme et mes enfants et un sac avec lequel je suis parti dans le Périgord, dans ma tiny. Et donc ça, c'était un acte fort de leur dire le gros cadeau que je vous fais cette année, avec le départ derrière, mais c'était de préparer, encore une fois, la situation, de vous dire si demain il y a un souci, si Internet saute, s'il y a un blackout, si vous avez les moyens, peut-être, avec aussi de la nourriture déshydratée. Alors ça peut paraître complètement fou, salé, et en même temps, je pense que voilà, il y avait ce souhait de les conscientiser, de leur dire je ne suis pas fou, les choses peuvent basculer. Entre temps, on a quand même vu tout ce qui s'est passé avec le Covid et compagnie, et que les choses sont en train de s'accélérer. Et donc voilà, donc j'étais dans cette préoccupation de leur laisser quelque chose qui puisse éventuellement leur servir si les choses devaient mal tourner. Et donc je suis parti tout seul. Et donc quand je suis parti, forcément notre couple était pas dans sa meilleure phase, clairement. Ça a mis fin aussi à la relation, même si on l'a compris après, mais clairement je partais. Mais voilà, au bout de 20 ans de vie commune, après 4 ans de discours anxiogènes, de disputes répétées, notre amour n'a pas survécu à tout ça.
Mon conjoint et moi avons évolué au même rythme face aux enjeux environnementaux. Je ne sais pas trop par quel miracle ça a pu être possible, surtout que ce ne sont pas forcément les mêmes éléments qui ont déclenché nos prises de conscience respectives. Lui a clairement un prisme marqué côté énergie. Moi, j'ai un fort driver justice sociale. Mais on s'éclaire mutuellement sur nos angles morts et jusqu'à présent, on est parvenu à progresser ensemble. Je me souviens d'un jour où Benoît, c'est son petit nom, a commencé durant la crise du Covid, alors qu'on cherchait à quitter Paris depuis plusieurs années déjà, à évoquer l'idée de vivre en collectif. Sa veille l'avait amené à découvrir l'éco-village de Pourgues en Ariège. On avait alors visionné le documentaire « En liberté » réalisé par un des membres de l'éco-village, Alex Ferrini. Bon, on a vite senti que nous n'en étions pas encore là dans notre cheminement. Mais comment aurais-je réagi si Benoît avait voulu approfondir ce sujet et partir en éclaireur comme Jean-Christophe? Et lui, comment aurait-il géré la situation si je n'avais pas voulu suivre avec nos filles? Au final, peut-on vraiment préparer ses proches et se préparer soi-même à un tel départ? Je me demande ce que Jean-Christophe pouvait ressentir le jour J approchant.
De l'amour. Et c'est vrai que là, ça a été très très compliqué parce que moi, j'étais fou amoureux de mon ex-femme. Encore une fois, une très très belle histoire d'amour. Et à un moment donné, je pense que j'ai même été dur avec elle les dernières semaines, les derniers mois, parce qu'elle, sentant l'abandon arriver, enfin ce qu'elle qualifie d'abandon, encore une fois, ce qu'elle a vécu comme telle, et sentant cette rupture qui allait arriver, puisque ça faisait quand même quelques mois qu'on savait qu'à partir de janvier, j'allais partir dans le Périgord, j'étais non pas à repousser des câlins ou des embrassades, mais j'étais plus froid, en fait, plus distant. Mais parce que j'étais en train de me préparer moi-même à la rupture. C'est affreux parce que je n'avais qu'une envie, c'est de la prendre dans mes bras et de la rassurer, même si ça faisait 4 ans qu'on se prenait la tête sur tout. Mais à un moment donné, je sentais que si on avait été trop proche avant de partir, j'aurais eu du mal à partir en fait. Donc il y a aussi ça qui s'est joué, qui a été très compliqué. Et puis je l'ai aussi vécu de manière assez violente après, c'est que finalement on ne s'est pas dit au moment du départ que c'était fini, même si ça a marqué quand même la fin de l'aventure.
Au bout de 4 mois, l'expérience au sein de l'éco-village tourne court pour lui. Le fameux PFH, putain de facteur humain. Jean-Christophe souffre aussi de n'avoir pu voir ses fils que 7 jours par mois durant cette période. Ils sont de sa femme pour réintégrer l'appartement familial. Cette dernière refuse, après ces mois passés seuls avec leurs 2 enfants. Même si aujourd'hui, il la remercie de l'avoir fait, c'est un nouveau coup dur pour Jean-Christophe. La rupture finit par être actée. Il faudra plusieurs mois à Jean-Christophe pour remonter la pente après ces 2 épreuves et trouver un nouvel équilibre qui lui permette de conjuguer ses différentes aspirations, paternelles et personnelles.
Depuis septembre 2021, donc j'ai dû me réinstaller en ville pour voir mes enfants plus régulièrement. Et puis j'ai surtout pris conscience à ce moment-là que même si je le faisais pour mes proches, et notamment pour mes 2 gamins, ils n'auraient l'âge qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils avaient à l'époque qu'une fois dans leur vie, et que c'était important que leur papa soit auprès d'eux. Je leur manquais, ils me manquaient. Et donc, à partir de septembre 2021, j'ai accepté de revenir m'installer à Strasbourg, de louer un appartement. C'est ces 2 vies, en fait, et cet équilibre que j'ai trouvé depuis 2 ans et demi. Une semaine ici à Strasbourg, dans l'urbain, on va dire la folie des grandeurs, et une semaine auprès de personnes qui partagent aujourd'hui mes préoccupations et mes centres d'intérêt.
Ce nouvel équilibre se traduit aussi dans la relation avec son ex-femme, beaucoup plus apaisée. La séparation semble au final leur avoir fait du bien, tant personnellement que dans leur relation.
Aujourd'hui, parce qu'on s'entend très très bien quand même toutes les deux, et tant mieux, elle me dit souvent qu'elle est ravie d'avoir eu cette expérience où elle a pu se retrouver enfin seule et à quel point ça peut être bon d'être seule. Et elle n'avait jamais vraiment vécu seule. Alors seule avec nos 2 enfants, Arthur et Victor. Mais je pense que voilà, elle s'est prouvé ça à elle-même. On se voit régulièrement quand il s'agit de récupérer les enfants. On passe souvent un peu de temps au restaurant le dimanche soir, quasiment ouais, 2 fois sur 3 ou 3 fois sur 4. Mais je sens bien, même si aujourd'hui j'arrive vraiment, depuis là pour le coup, depuis septembre et le moment où je me suis réinstallé à Strasbourg, c'est vraiment aussi le moment où finalement, et cet équilibre que j'ai trouvé entre une semaine à Strasbourg, une semaine ailleurs, où j'ai vraiment réussi à lâcher prise. Et ça, parce que moi, pendant 4 ans, c'était impossible de lâcher prise, où j'arrive de nouveau à avoir des discussions légères, entre guillemets, où j'arrive à nouveau à laisser dire des choses qui pour moi n'ont aucun sens sans systématiquement réagir, même si de temps en temps, ça me rattrape quand même. Et c'est vrai que ça j'ai réussi, mais il a fallu 4 ans. Et je pense que à peu près tout le monde passe par là, où il y a un moment où la conscientisation est telle qu'on est en décalage absolument total avec ses proches, et qu'à un moment donné, on n'arrive plus à discuter des mêmes choses sans voir tous les liens, puisque de toute façon, c'est systémique et que tout est interconnecté, intimement imbriqué. Mais c'est compliqué. De toute façon, et je suis conscient aussi des impacts que ça a pu avoir sur mes enfants, de voir leurs parents se déchirer pendant 4 ans. Aujourd'hui, ça se passe très très bien. Maintenant, mon fils aîné notamment m'a fait payer quand même à un moment donné le fait de l'avoir abandonné aussi, entre guillemets. Voilà, il m'a encore dit récemment que j'ai peut-être créé une blessure de l'abandon chez lui, ce qui est affreux. Mais voilà, on fait des choses en pensant les faire de manière juste, ça a nécessairement des impacts. Moi, je pense qu'il y a quand même un acte fort aussi, juste avant que je parte au restaurant avec nos enfants, où à un moment donné, on s'est quand même promis... en nous regardant droit dans les yeux, qu'on serait toujours là l'un pour l'autre. C'est-à-dire que ça, de toute façon, on se l'était promis. Et il y a eu suffisamment d'amour entre nous. Et on est persuadés tous les deux que c'est trop dommage quand un couple se sépare déjà, bien sûr, mais quand les 2 personnes ne peuvent plus s'entendre après la séparation. Et que non seulement pour les gamins, mais même pour ce qui nous avait liés ensemble, de concilier ça et d'être toujours là, présent, présente. Et nous le sommes. Et ça, c'est vraiment une force au-delà de nos choix, de nos styles de vie, de nos comportements aujourd'hui, on est animé vraiment par cette réalité-là, le fait d'être là l'un pour l'autre, d'être là pour nos enfants, d'être en accord sur les choix pour nos enfants, ou en tout cas, nous, on prend rarement des choix pour nos enfants, on les associe à nos choix, mais en tout cas, on n'a jamais été, hormis cette question d'école, mais depuis, entre-temps, il y a eu, à un moment donné, une école alternative qui s'est ouverte à Strasbourg, et dans laquelle on a inscrit mon aîné, puis on a inscrit le second, et donc finalement, on a quand même trouvé aussi un terrain d'attente sur le fait de sortir peut-être de l'école classique. Donc il y a des choses quand même qui étaient suffisamment fortes entre nous pour que malgré la bascule, malgré le déchirement, malgré la séparation, la rupture, nous arrivions à composer et à composer intelligemment pour le bien de tout le monde. Moi, aujourd'hui, en me refaisant le film, parce que je me le suis refait quand même plusieurs fois, j'ai l'impression que de toute façon, étant comme je suis, je n'aurais pas pu faire autrement. C'est-à-dire que j'étais tellement concerné par ce que je venais de comprendre, d'appréhender, de digérer, et tellement préoccupé, non pas par la peur que ça déclenchait chez moi, mais par la peur de voir mes proches ne pas réagir suffisamment tôt, ne pas prendre conscience de la gravité réelle de la situation.
Mais je ne veux plus attendre. Si j'ai décidé de changer radicalement de vie, ce n'est pas pour fuir. Ce n'est pas pour abandonner ma famille. Si ce n'est pas à moi d'imposer un mode de vie à la femme que j'aime, j'estime simplement que c'est mon devoir de père de veiller au bonheur et à la sécurité de mes enfants. C'est ma responsabilité. Mais y aller seul, en éclaireur, pourrait ne pas suffire, malheureusement, car le monde qui nous attend n'a vraiment rien à voir avec nos repères actuels. Le jour où les grandes villes ne seront plus approvisionnées en nourriture pendant 4 à 5 jours, elles se videront. L'exode urbain sera massif. La tension sera vive, alors oui. Il y aura de l'entraide, c'est même le tout premier comportement humain, le plus naturel. Celui qui, malgré le conditionnement de notre société de compétition, est heureusement gravé dans notre ADN. Mais dans la panique, d'autres comportements plus violents peuvent évidemment aussi s'exprimer. J'ai peur de vous perdre trop vite.
Parce que je suis comme je suis et que je suis quelqu'un d'authentique, de franc, d'entier, de transparent. Toute personne qui vit une situation comme celle-là, bah nécessairement, ça questionne plein de choses. Ça remet en question le couple lui-même et peut-être que c'est un passage obligé pour ces personnes-là si le conjoint, la conjointe, ne bascule pas non plus, ça va de toute façon à un moment donné être source de friction violente, parce que c'est impossible à un moment donné de ne plus avoir le même schéma de vie, de ne plus appréhender le monde de la même manière, de ne plus donner le même sens à la vie, au vivant de manière globale. Toutes ces questions-là, elles sont tellement fortes, tellement profondes, que c'est quasi impossible de rester avec quelqu'un. Ou alors c'est un sacrifice personnel énorme. On a l'impression d'ouvrir enfin les yeux, de se réveiller quand on vit ça, et de prendre conscience que finalement toutes les autres personnes continuent d'être endormies dans ce cauchemar absolu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis allé au bout aussi du « où ». Moi, je faisais toujours du « où ». Et j'étais toujours à aller au plus loin de là où m'emmenait la radicalité. J'allais très souvent jusqu'au bout de mes idées, quitte à toujours, non pas de manière binaire, mais à avoir des décisions vraiment très tranchées dans ma vie et vraiment radicales, et je pense que ça me correspond bien. Et là, avec cette idée de me réinstaller à Strasbourg, j'ai accepté à faire du « et » à composer avec le rural d'un côté alternatif, engagé, et l'urbain, malheureusement, conditionné, complètement endoctriné. Et donc moi, j'ai accepté à ce « et » grâce à mes enfants.
Avec une séparation dans un tel contexte, quand on a des convictions fortes, chevillées au corps, comme Jean-Christophe, qu'on a des enfants, mais qu'on ne les voit qu'une semaine sur deux, comment est-il possible de transmettre ces valeurs, alors que l'autre parent les éduque probablement différemment? Et comment les enfants parviennent à composer avec deux visions du monde radicalement opposées?
Ils ont été sans doute un peu pollués par la maman abandonnée, enfin qui a vécu ça comme un abandon, qui a commencé à un moment donné à dire « maintenant tu gagnes plus ta vie ». Non, elle disait même pas « tu gagnes plus ta vie », au contraire, justement, elle disait « tu travailles plus ». Ça, c'est une phrase très, très dure, ça. Tu ne travailles plus. Et mes enfants m'ont dit à plusieurs reprises, tu ne travailles plus, alors que ça voulait dire, je ne gagne plus d'argent par rapport à mon activité. Je n'ai jamais travaillé autant. J'ai toujours travaillé beaucoup, mais en ayant en tout cas un sens clair à ce que je fais, j'ai jamais déployé autant d'énergie en étant persuadé que je le faisais pour de véritables raisons, pour le bien commun. Et donc, d'entendre ça, ce n'est pas évident. Ouais. Maintenant, mes enfants, ils jouent aussi sur cette corde sensible, parce que comme on s'entend bien, qu'on a une belle complicité, le seul angle d'accroche, c'est mon véganisme, c'est les choix que j'ai fait d'être minimaliste, d'avoir un dumb phone. Ce qui est un peu dur pour moi, plutôt, c'est que je sais que j'aurais pas pu faire autrement, je leur ai tout dit, ils savent tout, ils ont très bien compris. En même temps, ils ont envie de vivre leur vie d'ado en ville, avec leurs copains, avec leur rapport aux marques, aux réseaux sociaux, à tout ce qui, pour moi, résonne bling-bling et résonne société de consommation. Mais ça leur appartient. Et voilà, ils ont 17 et 13 ans. Moi, je vis quelquefois, toujours avec ma blessure de l'injustice, je me dis, mais c'est quand même un peu dingue de me voir reprocher les choix que j'ai faits par des enfants qui vont être concernés demain par tout ce qui nous arrive, alors qu'il y a des enfants qui vont traiter leurs parents de boomers et leur en vouloir d'être dans la surconsommation, d'être dans... On continue la fuite en avant, la croissance infinie, et à détruire même les conditions d'habitabilité du monde dans lequel ils vont grandir. Et moi, je me retrouve avec des enfants qui ont compris, parce que je leur ai tout dit, voilà, qui ont souffert du caractère anxiogène de nos discussions et des disputes avec mon ex-épouse, et qui en même temps peuvent me reprocher de temps en temps d'avoir fait ce choix de vie. Alors qu'encore une fois, je le fais pour leur préparer ce qui arrive demain. Et de temps en temps, c'est un peu kafkaïen quand même comme situation, parce que, alors je ne sais pas, après ça leur appartiendra, et je ne suis pas là pour leur dire il faut faire comme ça, oui, je les accepte comme ils sont, et ils sont plutôt très matures pour leur âge, et je sais qu'ils ont peut-être aussi besoin de passer par cette étape par rapport à la réalité de la société dans laquelle nous vivons. Je comprends, et je sais aussi que dans la phase d'adolescence, il y a toujours quelque chose qu'on essaye de... On se construit aussi en opposition à ses parents, on se construit... Alors nous, il n'y a pas de véritable opposition, il n'y a pas de véritable crise d'adolescence non plus chez mes enfants. Tout est assez doux parce qu'on a toujours été dans la douceur. Il n'y a jamais eu vraiment de violence, hormis, encore une fois, ces 4 ans de dispute avec mon ex-épouse. Mais, et donc, voilà, quand ils veulent m'embêter, c'est là-dessus. C'est sur tous ces choix et sur ce décalage entre le papa qu'ils ont connu avant, même s'il était déjà rebelle, et le papa d'aujourd'hui, et aussi, alors ça, il y a clairement quelque chose sur lequel, à partir du moment où je me suis réinstallé à Strasbourg une semaine sur deux, et au bout de 6 mois, j'ai compris clairement, et l'aîné me l'a dit à plusieurs reprises, qu'il était maintenant interdit que j'aborde ces sujets. C'est-à-dire que toute discussion relative à l'effondrement, à l'extermination du vivant, là, de temps en temps, ça m'échappe encore au détour d'une conversation, de faire un lien, ou de, par rapport à mon véganisme, par rapport à... Et là, c'est systématiquement, non, papa, on arrête. Et ça peut être assez violent parce que de leur côté, ils ont vécu vraiment quelque chose de dur par rapport à tout ça. Et donc là, aujourd'hui, sauf quand ils me posent une question, sauf quand... Et très vite, même au bout de 5 minutes, parce qu'ils me voient enchaîner et être en mode on a appuyé sur le bouton play et voilà. Et très vite, ils arrêtent. Et parce que ils n'ont pas envie de l'entendre. Ils n'ont plus envie de l'entendre.
Les vacances sont un moment privilégié pour Jean-Christophe, pour partager son autre vie avec ses enfants. Que ce soit en passant du temps avec lui, dans sa tiny house, ou à découvrir des écolieux comme les Amanins dans la Drôme, ou Etikamundo dans les Cévennes, et leur faire toucher du doigt ce monde alternatif dont il essaye aujourd'hui de favoriser l'émergence avec l'archipel du vivant.
Ils savent qu'un autre monde existe, ils le voient. Maintenant, est-ce qu'ils en ont envie tout le temps ? Non, mais je pense que pendant les vacances, de temps en temps, alors avec l'aîné, il y en aura peut-être moins, parce que maintenant il grandit et il passera peut-être moins de temps... plus tard, ça reviendra. Mais avec le petit, ouais, il y a quand même des messages qui passent, il y a quand même des choses qui se rendent compte qu'on peut vivre avec beaucoup moins, on peut vivre de manière frugale, de manière sobre. Donc ça, je pense que c'est vraiment bien quand même de leur montrer ça. Et moi, je partage quand même régulièrement un peu ce que je vis, je leur dis où j'étais. Mais de temps en temps, régulièrement, l'aîné me demande, mais est-ce que tu crois vraiment que ça va servir à quelque chose ? Est-ce que tu ne penses pas que tu déploies toute cette énergie pour rien ? Je dis oui, mais bon, en même temps, je ne sais pas trop comment faire autrement que d'essayer, déjà. Ces personnes qui nous disent régulièrement, mais pourquoi vous êtes engagé comme vous l'êtes ? Pourquoi vous faites tout ça alors que si ça se trouve, ça va servir à rien ? Alors déjà, si ça sert à rien, à quoi bon finalement nous embêter, puisque bon, on aura au moins essayé. Si ça sert, ben, tant mieux. Donc on devrait nous encourager plutôt, en fait. Peut-être que ça questionne aussi le non-changement de certaines personnes, le fait que des personnes ne s'engagent pas. Peut-être qu'elles ne le vivent pas très bien, que ça leur renvoie en fait leur immobilisme, leur inertie. Je ne sais pas trop. En tout cas, alors là, a fortiori avec ses enfants, c'est compliqué. Ouais. Donc c'est comme ça et ça leur passera peut-être aussi. Donc voilà, et je sais bien qu'ils sont encore jeunes et que voilà. Mais c'est aussi peut-être parce que j'ai bougé comme j'ai bougé qu'ils sont dans cette opposition. S'ils avaient été plus jeunes, s'ils avaient été plus petits, si évidemment mon ex-épouse avait suivi, bah, tout serait différent et ils appréhenderaient le monde radicalement différemment aussi. Mais là, ils avaient déjà un certain âge. Quand je suis parti, quand ils ont vécu ça de manière... c'était il y a 4 ans, donc ils avaient 9 et 13 ans et ils étaient déjà âgés, ils avaient déjà vécu tout ce qu'ils ont vécu. Quoi.
Cet épisode avec Jean-Christophe, c'est l'histoire d'une rupture. Mais moi, je la ressens surtout comme une histoire d'amour. Amour pour le couple qu'il a formé avec sa femme. Amour pour celle qui reste la mère de ses enfants. Amour pour ses fils, pour qu'ils supportent la vie en ville la moitié de son temps. Je suis donc curieuse de savoir, au-delà de ses liens forts avec sa famille, ce qu'il y a de précieux également dans sa vie aujourd'hui.
Il y a un amour du vivant aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez dingue parce que moi, je vois la relation que j'avais avant. Alors, en dehors du fait même de manger des animaux, mais j'ai forcément écrasé des moustiques, j'ai tué des araignées parce que j'étais arachnophobe. Enfin bon. Et aujourd'hui, je suis incapable de tuer. Chaque forme de vie a sa raison d'être, en dehors des services qu'elle pourrait rendre à l'espèce humaine, puisqu'on ne considère très souvent les espèces animales non humaines que en fonction des services qu'ils peuvent nous rendre. Et je considère que voilà, n'importe quel être vivant sur cette planète a le droit d'exister. Et en plus, je suis plus du tout arachnophobe. Enfin, j'ai changé complètement de prisme par rapport à l'ensemble du vivant en étant plus conscient que jamais que nous faisons partie du vivant, que nous sommes des vivants. Je suis en train de lire le livre « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot, qui est absolument fabuleux. Il dit un truc assez fort sur déjà l'ascendance commune, c'est-à-dire que nous sommes issus, toutes les formes de vie sur Terre aujourd'hui, d'une ascendance commune. Et que ce soit avec un arbre, un champignon, ou évidemment nos cousins, les grands singes, et toutes les formes animales du vivant. Et que quelque part, en fait, nous sommes issus des mêmes composants chimiques, biologiques, et que nous avons, à un moment donné, c'est son propos, fait sécession avec l'ensemble du vivant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons décidé que le vivant, c'était de la nature, que c'était le décor, que nous étions, nous, tout-puissants, que tout ce qui se trouvait autour de nous était à notre service, qu'on pouvait puiser de manière infinie dans les ressources et tout exterminer. Et moi, je suis très conscient de tout ça aujourd'hui, et de me dire, en fait, nous avons, et ça c'est un peu ce que je porte de plus profond, une responsabilité absolue à l'égard du vivant aujourd'hui.
Être radical, c'est prendre les choses à la racine. J'écris l'amour avec le had anarchiste.
Mon fantasme absolu aujourd'hui, c'est que 8 milliards d'êtres humains se mettent au service du vivant et que femmes et hommes de cette planète se retroussent les manches et nettoient tout ce qui a été souillé, réparent tout ce que nous avons abîmé, réensauvage, revivifie, reboise. On a tellement à faire. Et là, il y a du travail pour des décennies pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est peut-être la seule et unique chance qu'il nous reste de nous sauver nous-mêmes en tant qu'espèce, en nous mettant au service des autres.
Amour pour ceux qui trouvent la force de tout quitter, leur patron, leur confort, leur petite vie bien meublée, qui se mettent en danger pour apprendre comment résister, et qui redonnent du sens au mot humanité. J'écris l'amour pour tous ces cœurs un peu perdus, exclus d'une société insipide qui ne leur ressemble plus. Amour pour ces gestes, ces attentions, ces petits riens qui font les trésors de notre quotidien.
Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à nous faire vos retours via les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a aidé à cheminer, parlez-en autour de vous et donnez-nous 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour nous soutenir. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et de vos liens précieux.